10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous vous retrouvons dans le cadre d'une semaine sous le signe de la nouveauté, et c'est un plaisir. Alors que le reste de l'émission se penche sur notre belle ville de Lyon pour la redécouvrir et la faire découvrir, LMNSP garde le cap de l'actualité internationale avec une nouvelle voix désormais, car Fabien m'a rejoint. Bonjour Fabien.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Et qui dit nouvelle voix dit nouvelle émission, nous avons opté pour vous offrir une nouvelle revue de presse que nous avons souhaité plus dynamique et plus complète.
Allez, c'est parti, LMNSP, le tour du monde des 5 continents.
On commence cette revue de presse, Fabien, avec l'Amérique latine. Et on reparle à nouveau de la justice mexicaine.
Oui, Antoine. Un documentaire relance les polémiques liées, souvenez-vous, à l'affaire Florence Cassé. Le documentaire, intitulé « Présumé coupable », est sorti dans les salles le 18 février dernier. Il raconte l'histoire vraie de José Antonio Zúñiga Rodríguez, un jeune homme de 26 ans arrêté à Mexico, accusé de meurtre et condamné à 20 ans de prison sans preuve. Deux jeunes avocats sont parvenus à rouvrir le procès et celui qui était le présumé coupable a finalement été innocenté. Devant les thématiques sensibles qu'il aborde et surtout le succès du film, un juge fédéral avait ordonné l'arrêt de sa diffusion. Mais face à une levée de boucliers et à ce que le directeur de Cinéapolis, qui diffuse le documentaire, a appelé « un véritable mouvement citoyen exigeant un meilleur système judiciaire », présumé coupable, reste diffusé dans les salles mexicaines et est d'ores et déjà le plus grand succès documentaire mexicain, filant tout droit vers le million d'entrées. On poursuit notre tour du monde aux États-Unis avec une promesse non tenue de Barack Obama, Antoine.
Eh oui, Fabien, vous souvenez-vous, 2 jours seulement après son entrée en fonction, le 20 janvier 2009, Barack Obama avait promis de fermer le centre de détention de Guantanamo, qui était devenu le symbole de la politique très contestée de son prédécesseur George W. Bush. Pourtant, le 7 mars dernier, un décret présidentiel encadrant la détention illimitée des détenus de Guantanamo a annoncé la reprise des procès des prisonniers devant les tribunaux militaires. Les militants américains pour les droits humains sont évidemment très mécontents de cette nouvelle. Le New York Times a titré « La prison qui ne va jamais disparaître » pour souligner cet échec. Le Washington Post, quant à lui, y voit un pas dans la bonne direction car la décision permet aux détenus d'obtenir un semblant de protection juridique, fût-ce devant un tribunal militaire.
Les Américains n'ont décidément pas fini avec l'héritage politique de George Bush.
Et tu ne crois pas si bien dire, Fabien, car après la publication des mémoires de George W. Bush, que LMNSP avait d'ailleurs évoqué, certains républicains, pour réhabiliter l'héritage pourtant honni de celui-ci, voudraient voir se présenter à la présidentielle de 2012 Jeb Bush. Il s'agit du petit frère de l'ancien président, le gouverneur de Floride de 1999 à 2007. Selon la très conservatrice National Review, Jeb Bush est le seul homme politique conservateur capable de réconcilier l'establishment républicain et les militants du Tea Party. Pourtant, un an avant l'échéance, aucun républicain ne s'est encore engagé dans la course, le parti restant très divisé. À suivre donc. Et on part maintenant en Chine avec cette question. Le souffle de la révolution partie de Tunisie touchera-t-il la deuxième puissance mondiale ?
Je ne sais pas si la Chine sera touchée par une révolution, mais le pouvoir fait tout pour l'éviter en tout cas. Le pouvoir chinois œuvre sur deux terrains. D'une part, il fait arrêter et emprisonner ceux qui lancent l'idée d'une diffusion de la révolution en Chine. Et d'autre part, il déploie tout un appareil idéologique. La propagande officielle dénonce quelques agités qui ont été inculpés de subversion. On lit dans un édito défendant le président Hu Jintao, paru en première page du Beijing Ribao, « Chacun a conscience que le bonheur, c'est la stabilité et que le chaos, c'est un désastre. » Défendre la stabilité et la volonté du peuple tout entier. Fin de citation. Le pouvoir contrôle les médias, notamment les réseaux sociaux. Les journaux ont ainsi précisé que des Chinois avaient été rapatriés de Libye, sans évoquer les motifs qui ont conduit ce rapatriement. Mais la Chine a un atout à faire valoir, la croissance économique. La deuxième puissance économique mondiale peut promettre à ses habitants une amélioration de leur niveau de vie et ainsi calmer les manifestants éventuels. Mais la croissance calme aussi les diplomaties internationales la plupart du temps, et même Facebook qui a mystérieusement fait disparaître le profil de Jing Zhao, journaliste qui plaide pour plus de liberté dans son pays, sous le pseudonyme de Michael Anti. Ce même Michael Anti qui avait déjà vu son blog supprimé par Microsoft en 2005, déjà à la demande du pouvoir chinois. En Côte d'Ivoire, Antoine, le conflit Ouattara-Gbagbo s'enlise et les morts s'accumulent.
Oui, malheureusement, cette crise que nous avons plusieurs fois évoquée ici n'est pas prête d'être terminée. Alassane Ouattara, le président démocratiquement élu, est toujours privé du pouvoir par Laurent Gbagbo. Alors que des crispations s'étaient faites sentir tout au long de cette crise, le pays risque aujourd'hui de basculer dans une guerre civile. Ces deux dernières semaines, la reprise des combats à l'ouest du pays a fait 35 000 nouveaux réfugiés. Depuis la crise politique, les violences post-électorales auraient fait plus de 400 morts, sans qu'on ne puisse vraiment les estimer. À l'heure actuelle, plus de 400 000 personnes déplacées risquent de se retrouver en grand danger lorsque la saison des pluies va survenir aux alentours du 20 mars. On craint en effet une catastrophe humanitaire majeure. Cependant, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a menacé de graves sanctions les établissements bancaires qui soutiendraient le régime de Laurent Gbagbo. Et pour le quotidien burkinabé Le Pays, cela pourrait bien lui être fatal. Notre tour du monde s'achève en Finlande, où un homme n'en finit pas de faire parler de lui. Il s'agit de Timo Soini, leader du parti d'extrême droite au nom éloquent, les vrais Finlandais.
Oui Antoine, déjà député européen, Timo Soini espère bientôt devenir ministre, car le système électoral finlandais le lui permet si son parti s'affirme bien comme la troisième force politique du pays lors des législatives à venir. Ce qui semble le cas puisqu'il est crédité de 17% des intentions de vote par les derniers sondages. Alors que selon les politologues scandinaves, 10% lui suffirait pour négocier un, voire deux ministères. Dépassés, les leaders des partis de pouvoir traditionnels en viennent même à souhaiter qu'il obtienne un ministère, se fondant sur le fait qu'il ne pourrait pas respecter ses promesses et qu'alors son envolée, qui est surtout médiatique, touche à sa fin et que l'homme retourne sur les bancs de Bruxelles, où il siège aux côtés notamment de Philippe de Villiers. Mais la Finlande n'est pas la seule démocratie européenne à avoir à gérer un essoufflement de ses partis traditionnels et une montée des extrêmes droites.
En effet, Fabien, des mouvements similaires se manifestent un peu partout en Europe. Les deux pays où l'extrême droite fait la percée la plus significative est l'Autriche, où ces deux partis d'extrême droite ont totalisé plus de 28% au dernier scrutin en date, et la Hongrie avec plus de 16%. En Suisse, par exemple, l'Union démocratique du centre, très islamophobe, est le premier parti du pays. Mais fait plus surprenant, la Suède, qui traditionnellement est très social-démocrate, a vu l'entrée à la Chambre de plus de 20 députés d'extrême droite en 2010. De même, au Royaume-Uni, le British National Party est entré pour la première fois au Parlement européen en 2009 avec 6,5% des voix. Donc plus qu'un panel de chiffres, l'idée qu'il faut retenir est que l'extrême droite a le vent en poupe et cela inquiète notamment les responsables musulmans et juifs d'Europe. La France d'ailleurs n'est pas exempte de ce constat, où Marine Le Pen est créditée de plus de 20% des voix à la présidentielle de 2012. On termine cette revue de presse par le palmarès de la semaine et on commence, Fabien, par l'insolite de la semaine.
Et la médaille revient cette semaine aux fabricants de chips anglais dont la créativité ne cessera jamais de nous étonner car, à côté des désormais habituels goûts vinaigre, poulet, moutarde ou steak argentin, on trouve désormais dans les supermarchés les goûts steak tarte à la bière ou encore kangourou sauce barbecue. Il faut dire que la chips est outre-manche une véritable tradition au point d'inquiéter les nutritionnistes. Les jeunes britanniques consomment en moyenne 2 paquets de chips par jour, ce qui équivaudrait à 10 litres d'huile par an.
Et le chiffre de la semaine, c'est le chiffre 1210. Pourquoi, Fabien ?
1210, c'est le nombre de milliardaires révélés par le classement du magazine Forbes. C'est le Mexicain Carlos Slim qui est en tête avec une fortune de 74 milliards de dollars. En nombre de milliardaires, l'Europe, encore deuxième l'année dernière derrière les États-Unis, est dépassée par la zone Asie-Pacifique qui comprend désormais 332 milliardaires contre 234 seulement l'an dernier.
Et pour terminer cette revue de presse, à qui doit-on la citation de la semaine, Fabien ?
On la doit à Saïf al-Islam, le fils du colonel Kadhafi. Celui-ci a déclaré à l'agence Reuters « Nous ne sommes pas des Mickey ». Eh bien, je suis tenté de dire qu'on s'en doutait un petit peu. Eh bien, c'est la fin de cette émission et de ce dossier de Le Monde ne suffit pas. Merci de votre fidélité encore une fois.
Nous remercions Xavier à la technique. Et vous retrouverez cette semaine sur Transistor une balade culturelle à Lyon avec Transversar. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous d'ici une semaine.
Avec un dossier spécial Europe de l'Est, avec 3 correspondants, Laure à Berlin, Jocelyn à Varsovie en Pologne et Thibaut, que vous avez l'habitude d'entendre à ce micro même, à Iași en Roumanie. En espérant que d'ici là, bien sûr, jamais le monde ne vous suffira.